Ce podcast vous est proposé par ES1, la chaîne e-sport. Salut à tous et bienvenue dans eRace, votre magazine du sim racing. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une émission comme d'habitude avec notre ami Stéphane. Comment vas-tu, mon ami ?
Eh ben, ça va très bien. Encore une fois, une belle émission qui nous attend et puis un bel invité.
Tout à fait, un invité que tu connais bien. Il fait partie de la team Romain Grosjean, une valeur sûre, comme on peut dire, de iRacing, mais qui nous venait aussi de Forza. On va parler de tout ça. Et il est avec nous aujourd'hui, Thomas Petitjean. Comment ça va ?
Salut à tous, ça va très bien, merci.
Eh ben, merci et de nous rejoindre.
Merci beaucoup, merci à vous de l'invitation.
Pas de souci, on va parler de plein de choses aujourd'hui, je le disais, avec ton passif sur Forza, maintenant sur iRacing, mais on a aussi beaucoup d'autres choses à traiter, notamment au sommaire de cette émission, on va parler de rachat, et oui, en ce moment, ça s'en passe beaucoup, notamment avec Motorsport Games, on parlera évidemment de Codemasters et d'Electronic Arts, on parlera évidemment du teasing de Thrustmaster avec son prochain volant, nous allons traiter l'actualité avec justement Air Factor 2 qui arrive avec un nouveau championnat, et le EX Championship, ça sent l'électrique, mais est-ce que ça vaut le coup ? On va débattre de ça tous ensemble. Je vous le disais, l'interview de Thomas Petitjean, le retour d'Avionique en tout cas. Voilà le programme de cette émission et sans oublier le test de l'Early Access de Circuit Superstar. Est-ce que ça vaut le coup ? On en parle ensemble. C'est parti en tout cas avec les news. Steph, je le disais au sommaire, on parle beaucoup de rachat dans cette émission avec Motorsport Game, qui a clairement un objectif de devenir le plus gros producteur de simulation. Et là, on ne parle pas de SimCAD.
Ouais, tout à fait. Bah, Motorsport, on en avait déjà évoqué. Ils ont pour but, et ils ont fait le rachat de Studio 397. Donc, Studio 397, c'est Air Factor 2. Donc, leur but est clairement aujourd'hui de rentrer en compétition avec iRacing.
Clairement.
Et de permettre en fait au jeu de se développer encore plus vite avec des nouvelles mises à jour, des mises à jour plus régulières, des nouveaux championnats, une nouvelle méthode de championnat avec beaucoup plus de compétition un peu à l'instar d'iRacing en fait toutes les heures ou toutes les deux heures. De faire un nouveau système également de ranking. Donc c'est vraiment aujourd'hui un step à voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est sûr que pour Air Factor 2, c'est que du bon parce que ça va vraiment relancer l'aspect compétitif qui est déjà de plus en plus présent sur Air Factor 2. Mais je pense que c'est en effet, c'est à suivre de près puisque c'est une nouvelle ère pour Air Factor 2.
Et oui, puis en plus, ils s'occupaient déjà de NASCAR Heat, donc ils avaient l'habitude des ovales. C'est que ça marche très bien sur iRacing, les circuits en ovale. Et ils veulent aussi utiliser les licences BTCC et Le Mans, donc ça peut laisser augurer de très belles choses. À noter que c'était eux qui s'occupaient de Kartcraft, dont on vous avait parlé dans une précédente émission, que clairement, ça peut devenir un gros mastodonte. Thomas, t'en penses quoi de cette nouvelle ère, on peut dire, du sim racing ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer depuis les dernières années. C'est assez exceptionnel. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis pas spécialement très proche, on va dire, d'Air Factor, donc je sais pas réellement ce que ça peut leur apporter. Ce qui est sûr, c'est que ça va créer de la concurrence avec iRacing. Dans tout domaine, la concurrence est une bonne chose. Ça va permettre de pouvoir tirer tout le monde vers le haut.
Ah ouais.
Donc en soi, j'ai hâte que ça se mette en place. J'ai hâte que tout le monde soit bien bien sur leur position pour pouvoir réussir à faire développer le domaine, le milieu, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais en soi, ça peut faire que tirer les choses vers le haut.
Ah, ça tire vers le haut. En tout cas, un gros éditeur qui maintenant devient incontournable, c'est Electronic Arts, qui a racheté Codemasters. Donc voilà, c'était un petit peu comme Microsoft et Bethesda. On le savait depuis longtemps, mais c'était officiel. Là aussi, c'est officiel. Il devient clairement le leader des courses grand public. On note quand même qu'ils sont propriétaires de F1, de Dirt, de Grid, de Project Cars, de Need for Speed, de Real Racing. C'est vrai que Project Cars, j'avais le doute, mais en fait, si, hein, si ils ont tout, ils ont tout.
Ouais, ils ont vraiment en fait pour but de devenir le numéro un en fait du SimCAD ou enfin voilà des jeux à moitié entre de la simulation et de l'accessible de l'arcade. Donc c'est sûr que déjà avec le mastodonte qu'on voit à l'écran Formula One, c'est déjà exceptionnel. Mais là, c'est sûr que ils vont écraser le marché dans ce domaine-là puisqu'ils ont racheté toutes les licences officielles. À noter que ils avaient créé déjà les quatre jeux qui étaient, enfin quatre, euh, 4 licences F1 qui étaient vraiment exceptionnelles pour les anciens.
Il y a c'était, très longtemps,
ouais. Formula One entre 2000 et 2003, avec vraiment un moteur graphique qui était déjà à l'époque révolutionnaire, et puis avec des physiques qui étaient super intéressants. Ils avaient fait aussi Formula One Challenge 99 à 2002. Mmh. Enfin, c'était, voilà, c'était déjà des acteurs majeurs, mais là, c'est vrai qu'ils renforcent leur position et c'est un super placement. Et puis, il devrait se relancer sur les Need for Speed. Donc,
ben oui.
C'est intéressant aussi, puisque ça reste le jeu Simcade, on va dire, qui était le plus ou arcade même, pour le coup, qui était un des plus emblématiques à l'époque.
Mais il manquait un petit truc de je ne sais quoi sur la jouabilité. Et là, ils évoquent la possibilité que les équipes de Codemasters aillent filer un coup de main pour le développement de NFS. Et finalement, vu que le jeu il marche très bien, que l'open world, que le côté course contre les flics, c'est rigolo. Mais il manquait un petit feeling, comme il y a sur Forza Horizon, par exemple.
Ouais,
un truc tout de suite t'as tes marques, et peut-être que ce sera l'union parfaite. On verra ce que ça donnera. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les rachats. Passons maintenant sur Trustmaster, un des plus grands équipementiers qui marche très très bien. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux pour le grand public. Fanatec qui est très au-dessus mais plus cher, et Logitech était en dessous sur la gamme. On a eu un teaser, ça va sortir le 20 avril. On n'a pas beaucoup d'infos concrètement, mais un nouveau volant type F1 avec écran central. Finalement, c'est ce qu'on avait vu en bundle sur certains trucs avec les diodes, mais ça peut être quelque chose de très bien.
Ouais, ça peut être quelque chose de très bien. Après, à voir. C'est vrai que sur le teaser, aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose, à part en effet un écran et puis, des palettes peut-être magnétiques, on ne sait pas encore. Enfin, voilà. En tout cas, ça a l'air d'être une belle finition. Ça a l'air d'être un produit un petit peu, placé haut de gamme.
Ouais.
C'est même surprenant venant de Trustmaster, puisqu'ils ont une segmentation qui est plutôt milieu de gamme. Donc, à voir, vraiment curieux de voir comment fonctionne ce volant, quel va être l'apport, est-ce qu'il va être uniquement dédié à Trustmaster, est-ce qu'il peut être plug and play sur du USB et pouvoir être utilisé sur d'autres volants. À voir, en tout cas, ça a l'air d'être un beau volant.
Ouais, moi, en tout cas, si ça continue comme ça, ce sera day one. Hein. Surtout si c'est du vrai carbone.
Avoir le prix.
Oui,
voir.
Non, mais moi, je suis le Trust à la maison, et c'est vrai que là, les diodes, il n'y avait pas pour le PC Xbox, enfin, c'était que pour PS4, je crois, que la donne. Et là, ça peut être bien. Ça me donne envie. Franchement, j'avais mon volant GT, mais là, on pourrait craquer. Bon, en tout cas, on vous tiendra au courant le 20 avril, la présentation complète. Évidemment, on vous en parlera dans e-Race. Avant de passer à l'EX Championship, les résultats rapides. Avec la Porsche eSports Super Cup, le round 7, victoire de Jobs devant Collins et Sanchez. Sur Spa-Francorchamps, sur la course principale, Jobs, Sanchez, Benneke. Au classement général, Rogers avec 435 points, Job 336 points, belle avance quand même, et De Jong 331 points. Alors autant vous dire que c'est très serré sur la deuxième place. Sur la NASCAR, la round 3, c'était Ryan Michael Louza qui a gagné avec au classement général Casey Kirwan qui devant Keegan Lee. Corey Vincent en troisième position. Sur la Formula E Accelerate, au général Yayovski devant Siggy et Rasmussen avec, et je n'allais pas oublier le round 4, victoire de Rasmussen devant Yayovski. Je le dis de manière différente à chaque fois, mais c'est moi qui décide. Et devant Siggy. Et pour terminer, le VCO Pro Sim, le round 7, Karam Bakoum, Spengler, Kronke et Colombo Shothorst. Voilà pour les résultats rapides. Là, je vous le dis, hein, on a vraiment beaucoup à parler sur le Sim Racing en tout cas. On continue, mon cher Steph, avec Assetto Corsa qui revient de bien belle manière avec l'EX Championship. C'est de l'électrique, c'est de la com pour montrer que ça pollue pas, ça vaut le coup, t'en penses quoi ?
Ouais, j'en pense que c'est un championnat qui est intéressant. Alors en effet, c'est une voiture qui a été créée de toutes pièces par les organisateurs, on la voit. C'est une voiture qui est 100% électrique avec beaucoup de power, une très belle voiture je trouve, avec un écran central aussi très sympa. C'est en effet du 100% électrique, donc il n'y a pas de bruit, c'est assez déstabilisant, mais on est dans l'air du temps on va dire, et puis ça reste un championnat qui a un seul but avant tout, c'est de promouvoir en fait le réchauffement climatique. Donc c'est intéressant en fait d'avoir pris parti, enfin d'avoir ce parti pris d'être 100% électrique. C'est des championnats et des affrontements en fait avec un pilote pro et un pilote team racer, donc ça on le voit de plus en plus, hein. Ça devient vraiment très courant.
C'est la monnaie courante, donc, très court comme format aussi, très rapide.
Et c'est un format qui est extrêmement court puisqu'en fait ce sont des affrontements un peu à l'instar du Race of Champions en fait, avec des affrontements un contre un sur un tour pour les manches qualificatives, trois tours pour la grande finale. Donc là on voit à l'écran, je crois que c'était l'affrontement pour le coup, c'est C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est un des affrontements qui m'a le plus plu, pour le coup, avec Romain et Senna, et Bruno Senna, qui se sont affrontés, qui se sont fait des super passes d'armes. Voilà, c'est intéressant. Honnêtement, j'ai été un peu sceptique sur ce format, en fait, de un tour, parce que je pensais que ça allait être vite plié. Et finalement, on voit qu'il y a certaines courses comme là qui étaient assez intéressantes de suivre, avec plusieurs dépassements, plusieurs choses.
Très bien. Thomas, Assetto Corsa, avec un championnat comme ça, ça pourrait t'intéresser, ne serait-ce que pour le fun. Bon, là, évidemment, c'est sur le... tout le monde n'est pas présent sur ce championnat, mais de manière globale.
Ouais, Assetto Corsa, je pense que c'est un très bon jeu. J'ai eu l'occasion de le découvrir récemment pour avoir fait quelques tests dessus, parce que je devais m'en rapprocher. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment très sympa. Y a quelques petits points qui sont un peu différents d'e-racing, des choses comme ça. Par exemple, sur la phase de freinage, en fin de freinage, au moment vraiment du dégressif, du trail break, ça, ouais. Les informations sont assez floues. Voilà, y a pas mal de choses qui se passent qui sont différentes. Alors après, à savoir si c'est mieux ou moins bien, c'est toujours pareil si on n'est pas habitué. Donc faut d'abord s'y habituer. Après, on pourra savoir si, en tout cas, moi, je pourrais avoir une idée pour savoir si c'est mieux ou moins bien. Mais en tout cas, les premières impressions étaient juste dingues et c'est un super jeu, quoi. Pour parler plus du X, puisque c'est... Pour être franc, c'est vrai qu'on voit donc cette voiture qui sort un peu de nulle part. C'est vrai que c'est un monstre, quoi.
C'est souvent comme le Bélissère, hein, c'était pareil.
Ouais. Non, mais c'est vraiment une voiture monstrueuse. On voyait là sur les images que vous avez diffusées après le premier secteur, juste avant d'arriver sur le gauche, je connais plus le nom du virage, mais en juste avant de passer sous le pont, là, ils étaient déjà à 350. C'est une voiture de fou furieux, quoi. C'est clairement des voitures de fou furieux. Et le format, pour le coup, je le trouve attrayant. Moi, je suis assez friand de ces formats-là. Alors, peut-être plus sur des formats chauds, où on va essayer de faire le plus beau show possible pour les spectateurs. Après, pour d'un point de vue purement sportif, je pense pas que ce soit le meilleur des formats, mais d'un point de vue chaud, clairement, c'est le meilleur.
Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses. Et puis, si ça peut se battre pour le climat, bon, finalement, tant mieux. On continue avec cette dernière news et non des moindres. On va parler du GT Pro Series. Hein, c'est vraiment le départ pour le championnat élite d'Air Factor. Steph, du coup, terminé, VCO, maintenant c'est Traxion GG. Je ne les connaissais pas pour le coup.
Ouais, bon, c'est un organisateur ou un sponsor. Je ne connais pas bien leur placement aujourd'hui, mais en effet, ce n'est plus le VCO qui est à la tête, ou en tout cas le main partenaire. On retrouve toujours en revanche Fanatec qui est partenaire et sponsor de l'événement. Donc un nouveau système cette année, donc un calendrier assez court, hein, de mars à mai. Deux courses toujours... assez intéressante, la sprint et l'endurance, 15 minutes, 45 minutes. Des courses qui sont du coup, pour le coup, retransmises sur Traxion, le YouTube de Traxion GG. Donc, un format qui reste similaire à l'année dernière, mais avec pas des impositions. Enfin, on ne peut pas dire qu'ils ont imposé les voitures, mais c'est vrai qu'en fait, il fallait choisir ta voiture dès le départ, suivant la position sur laquelle tu avais été tiré au sort, tu prenais du lest.
Mais oui.
Donc c'est là où ça fait un peu le scandale, parce qu'on se retrouve avec des personnes comme Erhan Jawoski, Sigi, qui se retrouvent vraiment, mais complètement en queue de peloton, largués à plusieurs secondes, parce qu'ils ont des voitures qui sont lestées, ou par exemple Erhan, pour le coup, a une voiture qui n'est absolument pas performante. Donc un choix assez compliqué, je trouve, de l'organisation, parce que là, on lance un championnat avec des handicaps pour déjà certains pilotes. Donc alors quand c'est des personnes comme Sigi ou comme Jawoski peuvent peut-être un petit peu s'en sortir, là pour le coup, ça a premièrement été catastrophique, ils étaient tous les deux en arrière-peloton, donc c'est très bizarre. Mais peut-être que pour d'autres, ça leur donne la chance de performer devant. D'ailleurs, on voit que la tête de la course n'est pas du tout celle de d'habitude.
C'est clair. Qu'est-ce qui t'a fait choisir iRacing par rapport à Air Factor, toi, Thomas ?
Le niveau de réalisme, déjà, dans un premier temps. Le fait qu'il y a un catalogue de compétition assez régulier, avec les séries régulières sur iRacing. En fait, on se retrouve avec toutes les heures, toutes les deux heures des courses. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et c'est vrai qu'au moment où je suis arrivé sur PC, il y avait déjà un peu ce type d'organisation, et Stéphane vient de le souligner très justement. Je pense que dans le simracing aujourd'hui, il y a quelque chose qu'iRacing fait, ne fait pas plus tôt, et que d'autres simulations peuvent faire comme Air Factor, où ils essayent en fait de mettre les simracers sur un pied d'égalité. Et aujourd'hui, il faut avoir en tête que dans aucun sport, on ne demande à personne de faire ça. On essaie, dans aucun sport, on va pas mettre une pénalité à Hamilton, on va pas lui mettre une voiture avec 150 chevaux de moins pour dire, bon, il va pouvoir se battre avec Kvyat, par exemple.
Ça, C'est vrai que ce serait drôle en F1 des grilles inversées.
Tu sais qu'ils en avaient parlé à un moment.
Des grilles inversées, ils en avaient parlé en plus. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie direction à prendre. Et je pense qu'il ne faut pas se perdre. Et ce type d'organisation-là, on peut pas demander à des sim racers de se battre sur la même piste au même moment avec un mec avec une radicale qui fait 350 chevaux et un mec qui est en GT, et un mec qui est en GT3 avec une caisse qui fait 550 chevaux. Ça n'existe pas. Je pense qu'il y a des volontés de se rapprocher du réel, potentiellement mettre du laisse, des choses comme ça. Ça peut être entendable, mais pas comme ça. Bien sûr. C'est pour ça que, pour le coup, e-racing, c'était quelque chose qui ne faisait pas. Et c'est pour ça que, pour moi, ça m'a... voilà, c'est pour ça que je suis sur e-racing sur un premier temps.
Très bien. Steph, petit rappel du classement pour la course d'Imola.
Oui, bien sûr. Alors, sur la course sprint, c'est... alors là, tu m'arranges pas, parce que c'est pas facile. Zvier, voilà. Schnuckbilt et Nuno Pinto pour la troisième place. Et D'Amelio, Antonovski et Jordan pour la main race.
Merci beaucoup Steph, tout de suite l'interview. Allez, c'est parti, l'interview, je le disais, sur le sommaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu roules très très fort sur iRacing, mais tu nous viens de Forza. Tu avais terminé deuxième des World Cyber Games et sixième du championnat de France. Championnat de France où j'étais classé très très loin dans les... Comment ça s'appelait déjà les... j'étais très loin.
Bah avant, il y avait la CamXL qui est devenue championnat de France.
Ouais. C'est ça. Ouais. Et moi, je me suis fait déglinguer. Ils ont dit, voilà, il a coupé, mais pas du tout. Je clame mon innocence encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de cette compétition, de ce que tu y kiffais, ce que tu kiffes moi maintenant?
Ouais, Forza, c'est vrai que c'est vieux. C'est il y a combien? Entre 12 et 14 ans maintenant. Ouais. J'avais commencé au début. J'avais rencontré l'organisateur du championnat de France qui s'appelait Cébul sur la CamXL sur Race Pro au début. Et c'était même pas une CamXL, c'était une pré-CamXL. Ouais. Donc après, j'avais fait en effet les championnats de France sur Forza 3 à l'époque, où j'avais fait 6e, et les World Cyber Games. C'était les prémices, quoi. C'était le début. On était au début, c'était parti comment? C'était vraiment un copain qui habitait à Cannes, avec qui on s'était dit, écoute, il y a le Xbox Live, c'est génial, viens, on essaie de se connecter ensemble, on prend n'importe quelle voiture et on va se tirer la bourre, quoi. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et après, j'ai pu rencontrer des pilotes juste exceptionnels et qui ont pu se rapprocher, qui m'ont fait connaître le milieu compétitif. Et puis, championnat de France, 4000 personnes à l'époque, sur un jeu comme Forza, ouais. 4000 personnes, 6 personnes par division. Quand vous faites 4000 divisé par 6, il y avait un petit nombre de divisions à gérer.
Je t'en dis 15, moi. C'est loin. C'est les relous qui se tapent dans les pare-chocs avec les problèmes de connexion. C'était moi.
Non mais déjà 10-15 quand on fait le calcul, c'est déjà beau, quoi. Ça monte déjà un gros niveau. Donc non, voilà, il y a eu un ensemble de choses qui m'ont poussé vers le milieu compétitif de Forza. Et puis Forza, c'est les premiers amours. C'est totalement différent de ce que je peux connaître aujourd'hui. C'était la manette, c'était du gameplay beaucoup plus arcade, mais c'était juste génial. Et j'ai pris des moments de plaisir énormes.
Trop bien.
Énorme.
Pendant un long moment, t'as pas roulé. Aujourd'hui, on sait, donc comme Donald l'a dit, que tu fais partie d'une grosse équipe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y remettre aujourd'hui?
C'est vrai que ça manque. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que... comment dire? Donc, j'étais sur console, sur Forza. Donc, j'ai fait Forza 2, Forza 3, Race Pro et début de Forza 4. Et après, je suis arrivé au moment où il fallait que je fasse des études. J'avais décidé de faire des études. Donc, j'ai fait une classe prépa, puis après une école de commerce. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en termes de finances, etc., c'était assez compliqué de pouvoir soit step up côté PC, soit avoir du temps pour continuer la console. Parce que mine de rien, à haut niveau, la console, ça demande énormément de temps.
C'est clair.
Donc, du coup, j'ai patienté. Et dans ma vie, le fait est que je suis arrivé sur Paris. Et sur Paris, j'ai pu revoir d'anciennes connaissances du milieu de la console. Et du coup, cette personne-là a pu en fait me prêter un ordinateur pour que je puisse goûter, commencer e-racing. Et c'est en somme toute grâce à cette personne-là que j'ai pu essayer e-racing et passer sur le PC. Donc au début, avec un Trustmaster, il m'avait vraiment passé le bundle complet. J'avais pu essayer ça et puis je suis de suite tombé amoureux parce que au final, avec les années, le manque se crée et on se dit purée, j'ai vraiment envie de revenir, quoi. Et puis c'est vrai que quand on voit les copains, j'ai des super mecs que je connaissais il y a 12 ans qui maintenant sont sur e-racing et puis de temps en temps sur Facebook ou des choses comme ça, je voyais un petit peu leurs résultats, j'ai dit purée, ça donne envie quand même.
Ah, c'est clair. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant. Aujourd'hui, tu as rejoint R8G, donc l'équipe de Romain Grosjean. Tu participes au VCO Pro Sim Series. Ça fait quoi de partager son baquet avec un pilote de F1?
Bah, au début, beaucoup d'émotions, en fait, parce que tu te dis, bon, ben, enfin, tu roules quand même avec un mec qui a fait de la F1, avec juste une des personnes. Enfin, c'est pas la plus belle des images que vous montrez. Mais...
j'ai dit, surtout, vous commencez par une sortie de piste pour bien le mettre en valeur.
D'accord, très bien. Très bien, merci. Donc, non, mais en fait, rouler avec quelqu'un comme Romain, c'est juste exceptionnel, ne serait-ce qu'en termes d'expérience. C'est vrai que quand on travaille, j'essaye de travailler beaucoup avec la télémétrie, etc., sur e-racing, parce que le milieu du PC, c'est quelque chose qui nous permet de travailler un petit peu comme en vrai avec la télémétrie. L'apport de Romain a été juste exceptionnel. Et après, on s'entend super bien avec Romain. Donc, pour les trainings, etc., c'est toujours beaucoup, beaucoup de plaisir que de partager la voiture avec lui. Après, c'est qu'on a vraiment pas eu de chance pendant le VCO. Vraiment, vraiment pas eu de chance.
Ouais, c'était ma question. Comment se passe le championnat?
Pas très bien pour nous. On va pas se mentir, il se passe pas bien. En fait, sur l'ensemble des courses, on a eu toujours des problématiques d'accrochage ou de choses comme ça. Les points à retenir en soi, c'était à Interlagos sur le round 2, le round 3. En qualif, je fais P2 derrière Josh Rogers. Donc, ça c'était un... Après, bon, malheureusement, on se fait accrocher tour 2 ou tour 3 par Max Beneke. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage. Et encore une fois, la faute à pas de chance parce que pour le coup, voilà, Max il peut rien. Donc, enfin, voilà, on n'a pas eu de chance depuis le début du championnat. On a vraiment essayé d'y faire quelque chose, mais on perd pas espoir. Il reste encore la dernière manche et on va tout donner pour cette dernière manche. Et si c'est à celle-là. Enfin, c'est à celle-là qu'on va faire un bon résultat, j'en suis persuadé.
Et pour terminer sur les VCO et surtout avec Romain, qu'est-ce que tu lui as apporté, qu'est-ce que lui t'a apporté? Est-ce qu'il y a des trucs flag comme ça?
Ouais, des trucs flag, lui il m'a apporté alors j'avais déjà un petit peu en moi cette vision vraiment de never give up, mais c'est vrai quand on se fait une première course, où là, pour le coup j'avais fait une erreur, c'était de ma faute que sur la première course sur Motegi se passe mal, mais après toutes les autres courses on a vraiment joué de malchance et on s'est retrouvé toujours dans des crashs à des mauvais moments, etc. Et Romain m'a vraiment donné un peu la grinta, quoi. Voilà, ce truc de dire allez, on se relève, on y retourne, et voilà, il se laisse démoraliser de rien, Romain, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a poussé, qui m'a transmis encore un peu plus que ce que j'avais. Et moi, je pense que ce que je lui ai apporté, c'est vraiment cette vision de dire, OK, Romain, oublie ce que tu sais faire en vrai. Pense que le sim racing, c'est une autre discipline et ce n'est pas la simulation à l'état pur de ce qui se passe en réel. D'accord ? Essaie de comprendre que derrière, il y a des lignes de code. C'est un jeu, il y a un gameplay et qu'il faut réussir à comprendre ce gameplay-là pour réussir à aller vite. Voilà, donc essaye de détacher un petit peu des automatismes que tu as à IRL et du coup, essaye de travailler, on travaille ensemble pour trouver des nouvelles manières de faire. Et puis au fur et à mesure, mais le pace de Romain aujourd'hui, comparé à un sim racer professionnel comme moi, il est juste exceptionnel sur le VCO. Hein. On parle de 2 dixièmes, hein, à peine.
Ah, c'est quand même c'est exceptionnel. C'est vrai. Mais c'est vrai que les pilotes pros ont ce truc de se dire c'est comme en vrai, et souvent sont déstabilisés en disant j'ai pas le pace que je voudrais, mais bon, lui en l'occurrence a bossé, c'est venu vite, faut les comprendre ces mécanismes, et en tout cas ça marche très bien. Brièvement, on va parler aussi de ta participation sur la Cup of Nations, où t'étais avec tout le monde, voilà, avec Jérémy Bouteloup. T'as un petit peu l'idée, ce truc là comment ça s'est passé, en tout cas ton expérience de manière globale là-dessus?
La Cup of Nations a été une des meilleures expériences sur e-racing parce que c'était un moment où sur e-racing c'était assez plat. Moi à cette époque-là j'étais freelance, j'avais pas d'équipe et c'est vrai que en fait toutes les personnes qui étaient dans la Cup of Nations, à savoir Antoine Higelin, Johan Hart, Jérémy Bouteloup et Samuel Libert, en fait c'est des amis à moi mais IRL, en fait c'est des personnes qui étaient présentes à mon mariage cet été, c'est des personnes qui sont très proches de moi, on est amis, en fait on est vraiment amis et du coup ben on a pu au début, pas grand monde était motivé parce qu'il n'y a pas eu énormément de communication autour de cet événement-là.
Sauf sur e-race.
Sauf sur e-race, en effet. Non, mais c'est vrai, vous étiez en soi un des seuls à vraiment en parler et à présenter ça comme une vraie Cup of Nations, ce qu'elle était réellement. Or, pas tout le monde le faisait, en fait. au début, c'était un peu un événement chaud, quoi. Et donc, moi, j'en ai discuté avec les gars. J'ai dit, les gars, faut qu'on y aille. En plus de ça, on va pouvoir travailler sur plusieurs biais. Premier biais, c'est, purée, OK, il y en a un qui est à la Conda, l'autre qui est freelance, l'autre qui est, bon, maintenant, à la RVG, l'autre qui sont à la Apex. Mais regardez, en soi, quand on doit bosser ensemble pour une équipe de France, on peut envoyer une super image, on peut travailler ensemble, ça peut être juste exceptionnel. Donc, du coup, on a essayé de créer un petit peu ça. Après, moi, j'ai eu un peu ce rôle d'organisateur entre eux, de coach, on peut l'appeler un peu comme on veut. En soi, il n'y avait pas de coaching particulier, il n'y avait pas de coach d'équipe de France ou de trucs comme ça, mais il fallait bien que quelqu'un prenne le lead sur l'organisation de tout ça. Et du coup, on a passé juste un super moment. Et aujourd'hui, je pense que pour en rediscuter de temps en temps avec Johan, avec Antoine, avec Sam ou avec Jérém, pour tous, ça reste une de nos meilleures expériences et on attend vraiment la prochaine édition. Vraiment la prochaine édition.
Mais nous aussi. Ah non, mais c'est vrai que c'était très cool. On en a beaucoup reçu. C'est vrai que vous avez tous eu le même discours, que c'était quelque chose de cool et vous avez très très bien représenté la France. Merci beaucoup Thomas. On passe maintenant sur le test. Enfin, c'est plutôt une preview. En tout cas, on vous parle de Circuit Superstar. La preview de Circuit Superstar, ça avait été présenté à l'E3, je m'en rappelle, on a tout fait « Oh, c'est quoi ce truc-là ?» En tout cas, c'est arrivé sur Steam, toujours pas sur console, mais le lobby e-race marche très très bien et nous allons prier pour avoir quelque chose très rapidement. Aussi pour nous, les consoleux Early Access, 16,99€, il y a 5 circuits, 6 voitures, la F1 des années 60, la F1 des années 80, une sorte de pseudo-Caterham, un camion de course, une GT et aussi une sorte de Mustang. Tu l'as pas mal testé, c'est quoi ton ressenti ?
Ouais, c'est super fun. Franchement, j'adore ce type de jeu, ça me rappelle ma jeunesse avec les micro-machines
mais
et tout,
mais
en circuit, quoi, en uniquement circuit, avec moins de fun, à vrai dire. Mais en tout cas, c'est super sympa. Il y a des arrêts au stand, il y a l'usure de pneus, il y a l'essence. Franchement, c'est un super jeu, c'est ultra fun. On est sur une early access, mais des petites difficultés pour le moment sur le online. Mais j'ai réussi à faire quelques courses et franchement, c'est super marrant, c'est génial. Les collisions sont plutôt bien faites, les graphismes sont à la hauteur en fait d'un jeu comme ça. En tout cas, enfin moi j'adore, j'ai sauté dessus, j'ai vraiment hâte qu'il y ait beaucoup plus de circuits, beaucoup plus de voitures, que le online fonctionne et qu'on fasse des courses avec les copains, ça va être génial.
Ce que je disais là, le lobby e-race, mais ça a été présenté à l'E3, il y a quand même toutes les raisons que ce soit dispo sur console. J'ai pas regardé, c'est vrai qu'on a été concentré sur la version PC,
ouais.
Mais il y a moyen, c'est tellement fait pour ça.
Mais je pense que derrière, en fait c'est toujours pareil, c'est ça reste des petits studios. Des fois qu'ils lancent ça et donc du coup il faut que ça soit soit racheté, soit mis dans une boucle pour que ça puisse être évolutif sur console, mais je reste persuadé qu'un jeu comme ça sortira sur console.
En tout cas, on vous le recommande chaudement, ouais. Vous l'avez vu rien que dans les images, ça donne trop envie.
Trop fun.
Ouais. Ça a l'air parfait. Allez, pour terminer le calendrier des deux semaines, le 18 mars, le round 5 de la Formula E, 21 mars, les 24 heures series à Catalunya, la GT Cup, c'est le 21 mars, round 6 de la Formula E, le 25 mars, la PESC, le 27 mars et le 31 mars, la INASCA et le VCO ProSim, le round 8 final. Ça va être énorme. En tout cas, c'était un grand plaisir d'être avec vous, fidèle d'E-Race. C'était très cool. Merci, Steph.
Avec grand plaisir.
Et merci, Thomas. Hyper intéressante. Franchement, j'ai adoré échanger avec toi.
Merci beaucoup. Merci de l'invitation et à très vite.
Ça marche. Et à tout bientôt. Salut. Sur E-Race, votre magazine du Sim Racing. À tout bientôt sur ES1. Bye bye.
Ce podcast vous a été présenté par ES1, la chaîne e-sport. Disponible chez Orange, Bouygues Télécom, Canal+, SFR, Molotov, Amazon Prime Video et bien d'autres opérateurs. En même temps, il n'en reste plus beaucoup là.